L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 19 novembre 1703, il est 22h02. Dans quelques instants, l'homme dont l'identité est gardée secrète depuis des dizaines d'années sera libre, enfin. Bizarrement, un horrible masque lui recouvre le visage. Derrière les ressorts qui lui donnent une relative mobilité, on devine une fine bouche. Le reste du visage est caché par cette pièce de métal qu'il n'a jamais pu enlever. Il étouffe. Son souffle se raréfie. Bientôt, il sera mort. Et sa légende, elle, volera vers le firmament des mystères de l'histoire de France. Il est 22h02. C'est l'heure H de mon histoire. Voilà déjà quelques jours que M. de Saint-Mars, missionné par le roi il y a près de 30 ans, a remarqué que son illustre prisonnier n'est plus dans sa forme habituelle. La veille, au retour de la messe dominicale, il s'est senti mal. Avait-il prié pour sa mort? Toujours est-il qu'en rentrant dans sa cellule ensuite, il a tout d'un coup eu un vertige. Alité le reste de la journée et toute celle d'aujourd'hui, il a demandé à pouvoir enlever cette cage de fer qui lui couvre le visage. Monsieur de Saint-Mars, qui a l'habitude de ses suppliques, a une nouvelle fois refusé en lui rappelant encore et encore l'ordre écrit de la main du roi Soleil. S'il venait à retirer son masque, lui et tous ceux qui auraient vu son visage seraient des hommes morts. Le malheureux agonisa donc toute la journée dans cette fournaise de métal et de raccords en tout genre. Sa mort signifie aussi la fin de la drôle de vie que mène son geôlier personnel qui, chaque jour, depuis 34 ans, épie ses moindres faits et gestes, lui fait la conversation et, finalement, au fil des ans, est presque devenu son ami. De lui, le prisonnier ne sait rien. Il n'a jamais connu son nom, n'a jamais voulu le savoir non plus, d'ailleurs. De Saint-Mars est de ceux qui savent se taire et respecter les termes d'une mission, peu importe la durée interminable de celle-ci. Bientôt, le gardien en chef de la prison de la Bastille vient le trouver paniqué. Ah oui, que faire du corps du mourant? Lui enlever son masque? L'enterrer avec? Doit-on le brûler plutôt que de le jeter à la fosse? Tant de questions auxquelles le geôlier ne répond pas. Pire encore, d'un air dédaigneux, il agite sa perruque en répondant qu'il fera envoyer un coursier jusqu'à Versailles. Non, il en fera envoyer deux, il vaut mieux, au cas où le maladroit ferait une chute ou serait pris par les brigands. À l'extérieur, Paris est victime d'une tempête si forte que l'air qui entre dans la cellule semble presque malveillant. Ceux qui se trouvent derrière ces murs tricentenaires sont malgré tout à l'abri du chaos. La Bastille, symbole du pouvoir autoritaire d'un roi qui règne sur le pays depuis plus de 50 ans, est remplie d'hommes victimes des fameuses lettres de cachet. Ces lettres émises par le roi, envoyées à coup sûr, celui dont le nom était inscrit au-dessus, au fond des cachots humides et froids de la prison parisienne. Il est 22h02 quand le dernier souffle passe au travers de la ferraille et 22h07. Lorsque le gardien en chef de la prison inscrit ces mots dans son carnet de notes, le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir que M. de Saint-Mars, gouverneur, a mené avec lui, en venant des îles Sainte-Marguerite et qu'il gardait depuis longtemps, lequel, s'étant trouvé hier un peu mal en sortant de la messe, il est mort le jour d'hui, sur les 10h du soir. Les coursiers, eux, tricornent au vent et bravant la tempête qui gifle les paillasses et les robes des mégères rentrant leur poule, galopent déjà vers le palais du roi Soleil. Au centre de la cour de marbre du château de Versailles se trouve la chambre royale. Il est 4h du matin lorsque les deux coursiers, qui pourtant ont pris des routes différentes, pénètrent ensemble au galop à l'intérieur de la cour pavée. Vite, vite, il faut réveiller le roi. Les vêtements trempés, les bottes pleines de boue, ils se font bien entendu bloquer le passage par les gardes présents à l'entrée du palais. Ils ont beau mentionner le caractère urgent, rien, selon eux, ne peut justifier une audience du roi au milieu de la nuit. À force d'insister, un garde fait appeler le secrétaire de la maison du roi qui finit par arriver, les yeux pleins de sommeil, mais surpris par cette intrusion inopinée. Il n'est pas très agréable à l'encontre des deux hommes, mais à la seule mention de monsieur de Saint-Mars, il se ravise. Il chasse les gardes et conduit les deux coursiers, 4 à 4, au travers la multitude d'escaliers du château doré de Versailles. Il fait réveiller le roi qui, déjà vieillissant, accueille tête nue et presque chauve les coursiers dégoulinants. Le roi lit tout de suite le courrier de son vieil ami Saint-Mars, ne pipe mot, et congédie les bravaches cavaliers. L'un d'eux remarque que la main du roi tremble. Le secrétaire d'État, lui, est resté dans un coin sombre de la pièce. Louis, oubliant toute convenance et protocole, s'assoit sur le rebord de son lit et se contente de dire à son ministre « C'en est fini. Sortez. » La forme noire dans l'obscurité s'exécute sans mot dire et regagne sa chambre. Il ne trouvera plus le sommeil cette nuit-là. Et le roi non plus, d'ailleurs. Absorbé par ses souvenirs et par une histoire vieille de 34 ans, il replonge sans crier gare dans ses souvenirs d'une jeunesse depuis longtemps déjà révolue. Il entrevoit dans le brouillard de sa mémoire, qui n'est plus très fiable, l'année 1669. Il se souvient pourtant particulièrement bien de ce jour de printemps, durant lequel il revenait d'une chasse fructueuse. C'est à son entrée dans la cour du château, chevauchant son plus bel étalon portugais, que son fidèle Colbert, la mine grave, l'avait attiré à l'écart du tumulte de la cour. C'est là aussi que tout avait commencé, et aujourd'hui, le seul être encore vivant détenant le secret le mieux gardé de son règne, c'était lui. Se perdant dans les méandres de son esprit, Louis XIV se replonge le 15 mai 1669. Il est alors 12h21. Le soleil de printemps ferait presque oublier les travaux gigantesques menés à Versailles cet après-midi de mai. Dans un carrosse tiré par 4 chevaux, Monsieur de Saint-Mars s'avance. Il a été convoqué par le roi en personne le matin même et il a dû abandonner ses occupations de la journée pour se rendre au palais. De passage à Paris, le gouverneur de la prison de Pignerol près de Turin, ancien mousquetaire et officier de l'armée du roi, a été surpris de cette convocation. S'il connaît bien certains des ministres de Sa Majesté, il n'a jamais encore eu l'honneur de rencontrer le souverain lui-même. La boule au ventre, aveuglé par le soleil qui se reflète sur les pierres blanches, il entre dans la cour. Des ouvriers sont en train de dorer les pointes du portail lorsque Colbert, sur le perron, fait son apparition. L'homme de confiance du roi a l'air soucieux, préoccupé. Il ne cesse de passer sa main dans sa fine moustache et sa perruque, un peu de travers, semble vouloir se faire la malle dans la cervelle du ministre bouillonne. Tout en passant sur les formalités d'usage, il presse son invité vers l'extérieur du palais. Surpris par ce côté inhabituel des choses, ce dernier suit Colbert d'un pas pressé. Le ministre est bien plus petit et chétif que lui. Mais sa vitesse de marche est impressionnante, tellement que le grand de Saint-Mars en est essoufflé. Il connaît assez peu le domaine, certes, mais il est déjà venu ici plusieurs fois du temps de son service. Il semble prendre la direction des grandes ménageries. Louis XIV est un amoureux des animaux depuis toujours, et son château leur offre à eux aussi une démesure à la hauteur de la puissance de leur maître. 3 pavillons quadrangulaires forment une barrière entre les intrus et le royaume des bêtes. Un grand escalier de marbre épouse la façade du bâtiment central. Les animaux sont accueillis en face de ces bâtiments autour d'un dôme octogonal surmonté d'un lanterneau. De Saint-Mars est subjugué par tant de beauté. C'est dans cette direction que Colbert se dirige. Il accède au bâtiment par un escalier tournant Il remarque sur les murs des peintures et enluminures d'animaux exotiques. Au premier étage, sur le balcon qui entoure la totalité de l'octogone, il remarque deux mousquetaires. Plus au loin, appuyé sur la rambarde, un homme mince, vêtu de bleu et d'un chapeau à plumes, semble baigné par le soleil. Grand, élancé, au mouvement net et précis, il accueille son visiteur d'un regard aussi bleu que la couleur de l'océan. Sans dire un mot, le roi offre une pomme à un éléphant qui vient avec sa trompe lui caresser ses habits. Cet étrange animal, aussi imposant qu'intelligent, est arrivé du Portugal l'année dernière. Dans les autres enclos, une multitude d'autres bêtes circulent. Autruches, flamands, gazelles, fauves, dodos et castors, on ne pourrait tous les citer. Le roi Soleil repousse délicatement de sa main la trompe de son éléphant qui s'éloigne paisiblement. Sans le faire attendre plus longtemps, ni même lui adresser la parole. Le souverain tend à M. de Saint-Mars un ordre de mission. Il doit se rendre à la Bastille, récupérer un prisonnier à l'identité tenue secrète et le ramener avec lui à Pignerolles en Italie. La particularité de cet homme est que son visage sera tenu secret pour toujours, recouvert par un masque en fer spécialement fabriqué pour sa personne. Il ne devra parler qu'en présence de Saint-Mars et si par malheur, il tente d'enlever son enveloppe de ferraille, il devra être tué sur le champ, lui et les témoins de l'événement. La suite de cette mission lui sera enseignée dans les mois et années à venir directement par coursier. Avant de partir, le roi lui adresse ces quelques mots. De Saint-Mars, nous ne nous reverrons plus. Ébranlé par la missive et l'ordre de mission qui vient de lui être remis, le geôlier s'éloigne. Il vient, sans le savoir, de prendre une place centrale dans l'histoire qui va suivre. La prison de la Bastille comprend des dizaines de cellules, plus miteuses les unes que les autres. Cependant, la royale geôle accueille parfois des invités de marque, des condamnés politiques ou rangs trop élevés pour les faire vivre dans les cachots des anciennes douves. Plus on monte dans les étages, moins on risque de croiser ces rats, aussi gros que les petits chiens de la capitale, qui grimpent sur la tête la nuit. Sans compter qu'ils mordent et peuvent vous refiler les pires maladies que ce monde puisse abriter. Ne croyez pas cependant que vous êtes à l'abri de ces mammifères dans les étages, non. Disons simplement que les cellules du haut vous permettent de dormir sur un lit et aussi d'avoir un pot de chambre, avec cerise sur le gâteau, une vue sur la capitale. L'humidité est là, les puces aussi. Mais pas de quoi se plaindre quand on connaît le sort des mécréants qui survivent dans les cellules les plus basses. Le Saint-Mars vient récupérer son prisonnier personnel et il est escorté pour cela par les hommes du roi. Il n'en revient toujours pas. Pourquoi l'a-t-on choisi lui? Parce qu'il est un ancien officier de confiance? Peut-être. Mais ça ne lui semble pas suffisant. Sans chercher à comprendre, sa loyauté prenant le dessus sur les interrogations, il pénètre dans la cellule sans frapper. Là, les yeux perdus au loin, les cheveux aux épaules pris en tenaille dans une horrible cage qui enserre son visage, un homme plutôt jeune, peut-être trentenaire tout au plus, ne détourne même pas le regard vers son nouveau compagnon. Il est plutôt bien habillé. Ses vêtements ont une certaine valeur même. Monsieur de Mars s'étonne de l'allure presque nobilaire du jeune homme qui se trouve devant lui. Il en a la certitude dorénavant. Son prisonnier, ce n'est pas n'importe qui. Dans le carrosse qui les conduit sur les routes cahoteuses vers Turin, aucun mot n'est échangé. Son prisonnier craint sans doute d'être passé au fil de l'épée et les deux hommes vont devoir construire une relation en faisant abstraction d'un passé que tous, et surtout l'homme au masque de fer, doivent oublier. À la frontière naturelle de l'Italie, une roue du carrosse casse et un arrêt est nécessaire. Les six mousquetaires qui accompagnent le convoi si spécial en direction de Pignerolles décident d'aider le cocher et son groom afin de gagner du temps. Le geôlier et son prisonnier s'assoient sur un rocher au cœur de cette forêt silencieuse de début d'été. Les oiseaux chantent. Les bruissements des fourrages rappellent la présence toute proche du gibier. Les bruits du carrosse ne semblant rien perturber la vie quotidienne des habitants des bois. Saint-Mars observe son prisonnier. Ce dernier semble apaisé par ce climat agréable et par les signaux de confiance que le nouveau compagnon qu'on lui a affecté lui envoie depuis plusieurs jours. Bon, après tout, il est autant embarqué que lui dans cette histoire rocambolesque. Bon, la seule différence, que lui ne va pas porter ce foutu masque le reste de ses jours. Et après mûre réflexion sur ce rocher italien, le prisonnier brise la glace. Sa voix suave et ses mots justes, d'une rare intelligence, surprirent Saint-Mars, qui ne reconnut pas cette intonation si particulière. Comme un ouf de soulagement, cela le rassure de ne pas connaître l'homme qu'il est censé garder. Voilà qui déjà va faciliter les choses. Bientôt, et après une conversation des plus agréables et banales sur le trajet qu'ils viennent d'effectuer et l'accident qui provoqua la perte de la roue de bois, les soldats font signe aux deux hommes de remonter en voiture. La mauvaise qualité du tracé routier du bois est bientôt effacée par les plaines de la région turinoise. Le geôlier apprécie depuis toujours cette région escarpée et verdoyante. Et il regrette déjà que son prisonnier ne puisse en profiter qu'au travers de barreaux. Le vent frais passant par les fenêtres du véhicule amène avec lui l'odeur des chevaux transpirants. Et celle, moins agréable, du cocher qui est perché là-haut depuis plusieurs jours. À flanc de montagne, tout près de la métropole de Turin, les deux hommes distinguent bientôt la forteresse de Pignerol. Pour le prisonnier, c'est une détention de 34 ans qui commence.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H du prisonnier le plus célèbre de l'histoire de France, l'homme au masque de fer. Cet homme qui, pour une raison inconnue, doit vivre le visage recouvert, enfermé en cellule, est également contraint de cacher son identité. Confié à un ancien officier des mousquetaires du roi Soleil, le voici arrivé en Italie, du côté de la région turinoise. Démarre alors pour lui une triste vie d'oubli et d'errance. Longtemps, M. de Saint-Mars a tenté de percer le mystère de l'homme dont il a la garde. De temps à autre, Louvois ou Colbert, ministre de Louis XIV, lui envoie des missives au sujet du prisonnier. On prend de ses nouvelles, s'enquiert de son état de santé, de son moral. Rien d'habituel, décidément, dans cette détention. Au fil des ans, le geôlier tente d'échafauder des plans et des hypothèses qui tiennent la route. Mais rien ne lui donne satisfaction. Et toujours, il finit par lui-même ranger au placard ses théories. Ce prisonnier n'est bien entendu pas sa seule source de préoccupation, ni son seul pensionnaire d'ailleurs, mais cette histoire l'intrigue au fil des années qui s'écoulent dans la botte italienne. La forteresse de Pignerol abrite également d'autres prisonniers célèbres à cette époque. Parmi eux, l'un des protagonistes centraux de certaines théories construites autour de l'identité du masque de fer. Nicolas Fouquet. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est pourtant l'un des premiers prisonniers politiques du règne de Louis XIV. Replongeons quelque temps dans l'histoire de cette arrestation, qui va entraîner les plus folles hypothèses, y compris celles supposant que derrière le masque de fer se cache en réalité Nicolas Fouquet lui-même. Cet homme est le plus puissant ou presque du royaume au moment où meurt le célèbre cardinal de Mazarin qui gérait le pays avec Louis XIV avant la maturité de celui-ci. Fouquet est surintendant des finances. Il contrôle le Parlement et dispose d'une richesse hallucinante. Possédant notamment le château de Vaux-le-Vicomte dans lequel il organise de grandes et somptueuses fêtes. C'est l'une d'entre elles qui est à l'origine de sa vertigineuse chute. Nous sommes le 17 août 1661, et il est 18h. Nicolas Fouquet, en grande tenue de soie bleue, s'apprête à accueillir le souverain de France, le jeune Louis XIV. Depuis que le cardinal est décédé, il porte seul le royaume sur ses épaules. Ce soir, il a préparé une fête à la hauteur de son invité, et il a prévu de lui en mettre plein la vue, à lui et à la reine. Lors de l'arrivée du couple royal, il est décidé qu'une loterie géante sera organisée pour tous ses invités, près d'une centaine de personnes. Mais pour aller encore plus loin dans la démesure, il décrète que tous les numéros, absolument tous, sont gagnants. Et alors, si on évoque les lots, vous allez tomber par terre. Des perles pour ces messieurs. Des diamants ou des chevaux de race pour les dames. Ceux qui ont la chance de fouler le sol du château de Vaux-le-Vicomte ce soir-là sont ébahis. Quelle entrée en matière, vous allez me dire. Eh bien, accrochez-vous parce que ce n'est que le début. Le dîner est servi dans une vaisselle entièrement en or. Une bagatelle qui coûte 120 000 livres, une fortune pour l'époque. Celui qui prépare à manger est le cuisinier le plus célèbre de Paris à l'époque. Au fur et à mesure du service, les assiettes en or sont balancées comme de vulgaires couverts en plastique dans les douves du château et on sert à table des mets absolument fabuleux. Ragoûts, perdrix, faisans, produits frais de la mer, un véritable festin. Pour animer la soirée, le meilleur humoriste de l'époque, Molière, rien que ça, qui vient donner une représentation en exclusivité de sa toute nouvelle pièce. Une fois la pièce terminée, les invités sont conviés à participer à une chasse indoor dans les appartements du château où l'on a lâché du gibier en tout genre. Les armes sont chargées au bouchon de liège, le tout sous des flambeaux. Pour terminer cette soirée déjà tout bonnement fantastique, un gigantesque feu d'artifice de plus d'une heure et demie explose dans le ciel. Il est tellement gigantesque que deux chevaux du carrosse de la reine, paniqués, finiront noyés dans les douves. Une soirée des plus mémorables, donc, qui se termine en point d'orgue par la plus grande des maladresses commises par Fouquet. En effet, ce dernier se met à draguer ouvertement la nouvelle maîtresse de Louis XIV, en allant même jusqu'à lui proposer une somme d'argent contre ses faveurs. En réalité, c'est plutôt une alliée à la cour qu'il recherche. Mais cette dernière, outrée, s'en va tout de suite avertir son royal amant. Louis XIV repart sur le champ, humilié par tant de faste. Il est alors 6 heures du matin. De presque roi, Fouquet en devient le bouffon. Longtemps, les historiens ont cru que cette fête avait été le point de bascule conduisant à son arrestation. Mais en réalité, Louis XIV a déjà décidé dès le 4 août qu'il en était terminé de cette omniprésence de cet ambitieux personnage. Sur son ordre donc, il est mis aux arrêts et envoyé à Pignerol le 5 septembre 1661. Et c'est le célèbre D'Artagnan qui vient arrêter le malheureux, accusé de crimes de lèse-majesté et complot, ainsi que de malversations financières impliquant la couronne. Rien que ça. Le procès est à charge, bien entendu, et il est condamné à la prison à vie et à la confiscation de ses biens. Avéré qu'il côtoie donc dans la même prison le fameux Masque de Fer et le directeur M. de Saint-Mars. La légende, qui dit que les deux hommes pourraient être les mêmes personnes, vient donc de là. En effet, cette thèse est longtemps restée la plus plausible. Les échanges entre les ministres du roi et le geôlier permettent d'affiner le portrait robot du prisonnier. D'abord, il est de grande importance. Transporté dans une chaise à porteurs ou une calèche de bonne facture, traité avec le plus grand respect. Ensuite, il reçoit du linge fin de la capitale pour se vêtir. Sa vaisselle est en argent et sa cellule luxueusement équipée. Enfin, on lui cherche un valet, ce qui, tout de même, est un comble pour un prisonnier. Mais ce n'est pas tout. Certains échanges nous apprennent que son nom est connu du grand public, que ce dernier le croit mort, qu'il est arrêté peu après la mort du cardinal, qu'il connaît les secrets de Fouquet et que ce n'est pas un de ses subalternes. Alors une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire que le mystère est percé. Et comme souvent lorsqu'il s'agit de leur hache, je vais vous répondre. Oui, mais... Rappelez-vous, le Masque de Fer est décédé en 1703 à la Bastille, alors que l'acte officiel de décès de Fouquet est rédigé en 1680. Cependant, de très nombreuses zones d'ombre entourent ce décès, et il n'est pas impossible que derrière le masque se cache bel et bien l'ancien homme fort du royaume de France. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet, Passons en revue les autres théories qui fleurissent depuis la fin du XVIIe siècle autour de ce personnage des plus particuliers. La légende du masque de fer prend son envol bien avant sa mort. En réalité, lorsque Monsieur de Saint-Mars est muté à un poste similaire à la prison des îles Sainte-Marguerite. Le transport du prisonnier alors intrigue et fascine. Nous sommes en 1687. Le geôlier se relâche et fait même courir le bruit que le grand public pense que son prisonnier est déjà mort. Rappelez-vous, Fouquet est censé être mort en 1680, 7 ans plus tôt. Mais écartons cette hypothèse quelques minutes et parcourons les autres, tout aussi connus parmi la cinquantaine de possibilités évoquées depuis les écrits de Voltaire sur le sujet. Dans les registres, un nom interpelle, celui d'Eustache d'Angers, à qui on attribue un nombre incalculable d'identités. Molière, Cromwell, Henri de Guise, un hypothétique frère de Louis XIV ou bien encore le duc de Beaufort. En réalité, les courriers permettent de retracer parfaitement l'identité de cet homme qui n'est autre qu'un valet au service des prisonniers dont Saint-Mars a la charge. Et dans ce cas, comment imaginer qu'un simple valet soit l'homme au masque de fer, recevant tissu de qualité et argenterie pour dîner? Le coût de la captivité de cet homme a été monstrueuse pour la couronne. Dans ce cas, cet homme devait certainement détenir des secrets d'État de la plus haute importance. Exit donc la piste du subalterne. Passons alors en revue les autres prisonniers de la forteresse de Pignerol au moment où arrive le fameux masqué. Ils sont 5. Et seul l'un d'entre eux peut attirer notre attention. Il s'appelle Mattioli. Et il est un espion italien qui a trahi la confiance du jeune roi de France, conduisant à son emprisonnement à vie. Cependant, alors que de nombreux auteurs soutiennent cette thèse, elle ne tient pas. L'Italien est encore à Pignerol quand on observe l'arrivée du masque de fer sur l'île Sainte-Marguerite. Rien ne semble donc convenir lorsqu'on s'intéresse de plus près au potentiel profil de ce prisonnier inconnu. Longtemps, la théorie d'un héritier royal qui aurait pu faire de l'ombre à Louis XIV, qu'il soit jumeau ou aîné, a pris de l'ampleur. Pourtant, là encore, la thèse s'effondre. Au moment de son emprisonnement, ce prince royal aurait 22 ans. Si c'était son frère jumeau, un peu plus, s'il en était l'aîné. Aucun document lié à la naissance du futur roi, et ils sont nombreux, vient attester d'une deuxième naissance, et encore moins de l'existence de l'héritier. De plus, Louis XIII a certainement dû avoir des enfants illégitimes, mais c'est souvent la norme à l'époque lors des règnes, et il paraît impossible qu'un fils illégitime inquiète tellement le jeune roi qu'il doive le faire emprisonner. Donc, toutes ces conclusions nous ramènent vers un seul et même nom, Nicolas Fouquet.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H du prisonnier inconnu le plus célèbre de l'histoire de France, l'homme au masque de fer. Certaines hypothèses, plus farfelues les unes que les autres, ont fleuri dans les esprits dès les premiers écrits sur la question rédigée de la main de Voltaire. Ayant d'abord cru à l'existence d'un hypothétique frère aîné du roi Louis XIV, puis à la présence d'un espion italien ayant trahi la couronne, les soupçons se sont dirigés petit à petit vers la figure d'un homme en particulier, Fouquet. Fouquet, l'ancien surintendant des finances du roi. Un seul obstacle, et non des moindres, se dresse face à nous lorsqu'on évoque cette thèse. Celle de la mort de cet homme, officiellement survenue en 1680, soit 23 ans avant la mort du masque de fer à la Bastille. Toujours officiellement, Fouquet meurt dans sa cellule de Pignerol en Italie. Cependant, tous les historiens s'accordent sur un point. Cette mort est au moins mystérieuse, ou plus suspecte. Pour autant, ils ne la remettent pas en cause. En effet, une lettre émise par Saint-Mars à destination du roi confirme le décès du prisonnier en 1680. Des documents existent pour en témoigner. Des échanges de lettres, une mention sur les registres mortuaires d'une église à Paris et même une note de frais. Problème là encore, et non des moindres. Ni cette note, ni ces lettres n'ont été authentifiées par Saint-Mars ou par la famille de Fouquet. Pour vous le dire autrement, elles ne répondent à aucun courrier que l'on aurait découvert. Et mieux encore, personne n'y a, semble-t-il, répondu. Ces écrits peuvent donc tout à fait être des faux. Bien, tentons maintenant d'évoquer le parcours de Nicolas Fouquet avant de comprendre les raisons de son enfermement et pire encore de son port du masque. L'ancien surintendant des finances est enfermé en Italie, à Pignerolles. Ça, vous le savez déjà. Oui. Oui, mais au début de sa captivité, il est un prisonnier comme les autres et ne porte pas ce terrible masque. Un événement en cours de sa peine a rabattu les cartes et a provoqué pour lui une punition encore plus terrible que la prison. Commençons par essayer de comprendre à quelle date Fouquet est réellement mort, du moins en partant du principe qu'il est le masque de fer. Officiellement, nous l'avons dit, cette mort a eu lieu en 1680. Des courriers rédigés par son gardien privé en 1691 confirment que le célèbre prisonnier masqué vit encore. 3 ans plus tard, l'espion italien, dont nous avons déjà parlé, est amené à l'endroit où se trouve Saint-Mars, dans les îles Marguerite, alors que jusqu'alors il était resté à Pignerolles en Italie. Lors de son arrivée, la correspondance entre les ministres et le gardien le présente comme le prisonnier le plus important de la prison, ce qui, si le masque de fer était encore en vie, ne serait bien entendu pas présenté de cette manière. Partons donc du principe que Fouquet, devenu le prisonnier masqué, est mort entre 1691 et 1694. La question qui s'impose maintenant est bien entendu celle-ci. Si Fouquet est mort 10 ans avant l'homme au masque de fer, décédé à la Bastille, qui est donc ce deuxième prisonnier masqué et pourquoi avoir décidé de continuer cette mascarade? Eh bien, vous allez le voir. La réponse n'est pas si compliquée que ça. Depuis leur arrivée sur les îles, le gardien du masque a commis quelques relâchements. Il a évoqué que certaines personnes que l'opinion croyait mortes sont en réalité vivantes et menacent à un moment le bon secret de l'affaire. Certaines gazettes commencent à évoquer le nom de Fouquet et à sa mort et, alors que personne ne souhaite que tout cela se transforme en scandale, on trouve une solution. Rebattre les cartes, cacher son jeu et changer de masque de fer. La deuxième victime ? Cet espion italien, bien entendu, subitement ramené d'Italie pour intégrer la prison des îles. Plus jeune que Fouquet, plus alerte que Fouquet, aucune chance qu'on puisse les confondre. Ainsi, à leur arrivée à la Bastille, l'homme est aperçu plusieurs fois avec son masque. La démarche encore vive et jeune, et personne ne peut alors penser à Fouquet. En effet, à son décès en 1703, l'Italien a 63 ans. Mais sur son acte de décès, on lui note l'âge beaucoup plus trompeur de 45. Pourquoi avoir menti de presque 20 ans ? Là aussi pour brouiller les pistes, bien entendu. Fouquet, en 1703, aurait dû avoir 89 ans. Il est donc impossible, tout bonnement, de confondre un homme dans la quarantaine avec cet illustre prisonnier auparavant décédé. Cette question répondue, 2 autres sont encore en suspens. Pourquoi avoir masqué Fouquet ? Et quel secret pouvait-il bien connaître pour avoir été réduit au silence de la sorte ? Afin d'y répondre, il nous faut faire venir sur scène un ultime protagoniste et non des moindres. Louvois, ministre du roi Louis XIV, qui est en réalité l'homme qui rédige le courrier prétendument faux de la mort de Fouquet. Cet homme d'État a une carrière qui s'est construite sur la puissance, la cruauté, la méchanceté et surtout la ruse. On peut mettre à son actif de nombreuses exactions, des massacres et des assassinats de civils. En bref, c'est un homme de pouvoir peu fréquentable, à la réputation des plus malsaines. Ce Louvois est au cœur de l'affaire du masque de fer, puisque c'est le ministre de tutelle de Saint-Mars, le fameux gardien du prisonnier. On peut tout à fait penser qu'il souhaite absolument que le roi garde Fouquet prisonnier le plus longtemps possible, et nous verrons plus tard pourquoi exactement. Mais partons du principe que c'est sa motivation première, éviter une libération qui lui ferait du tort. À l'époque, il semble tout à fait envisageable pour un ministre de cacher une affaire pareille à la couronne, même si cela peut surprendre. Louvois est coutumier du fait. Cependant, dans le cas présent, l'affaire Fouquet est très exposée. Malheur à Louvois, si le poteau rose est découvert par le roi ou un de ses proches. Il lui faut trouver une raison qui vaille cette prise de risque. Mais laquelle ? Même enfermé dans un donjon de Pignerolles et gardé par une centaine de mousquetaires, le prisonnier fait assez peur pour qu'on l'enferme sous un masque en plus de le cloîtrer en cellule. Du jamais vu ! La difficulté est que Fouquet a été au centre du régime pendant des années, glanant puissance et information sans doute au moins autant que Louis XIV, si ce n'est plus. Là encore, certains documents permettent de cerner les affaires auxquelles l'ancien homme fort du régime a été mêlé. Elles sont, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement graves. Le frère de Fouquet a écrit un jour que le peintre Nicolas Poussin lui a vendu un secret de la papauté et que ce dernier va lui apporter des avantages qu'après lui, personne au monde ne retrouvera jamais dans les siècles à venir. Ce sont choses si fortes à rechercher que qui que ce soit sur la terre maintenant ne peut avoir meilleure fortune ou égale. Intéressant, n'est-ce pas ? Mais tenez-vous bien, ce n'est pas tout. Pendant son procès, Fouquet évoque par exemple un secret de la plus haute importance qu'il aimerait dire en privé à Louis XIV, mais se résout à se taire en public, tant l'intrigue semble être une affaire d'État. Son gardien écrit au ministre quelques années plus tard que le prisonnier espère une grâce royale grâce à ce secret qu'il détient. On peut tout à fait penser que le ministre en question, Louvois, finit par connaître au moins une partie de ses secrets et qu'il décide, probablement impliqué, de simuler la mort du prisonnier aux yeux de l'opinion et du roi lui-même. En effet, si Fouquet est mort, eh bien impossible de le libérer. Il est donc tout à fait envisageable que le ministre Louvois fût impliqué dans un secret d'État si grave qu'il aurait pu mettre sa vie et son influence en jeu en bernant la couronne. D'ailleurs, à partir de 1676, soit 4 ans avant la mort officielle du prisonnier, le roi change d'attitude et envisage une libération, certainement informé que son ancien surintendant détient un secret qui dépasse l'entendement. Mais trop tard pour le roi. Avant que ce dernier n'agisse, Louvois était passé par là. Voilà en somme ce vers quoi les enquêtes menées par plusieurs historiens tentent à conclure. Le masque de fer n'est autre que Nicolas Fouquet, l'ancien homme fort du régime, banni par le roi Louis XIV. Voltaire est le premier à faire prendre à la légende un envol considérable, se servant de cette affaire pour critiquer le régime. Plus récemment, Alexandre Dumas, Alfred de Vigny ou encore Victor Hugo exploitent le côté romanesque de cette histoire et publient poèmes, ouvrages et pièces de théâtre à ce sujet. Hugo prend par exemple, lui, le parti d'un frère jumeau né juste avant le roi Soleil. Ainsi, petit à petit, l'effet s'étiole et la légende, elle, prend forme. Beaucoup de films sont également réalisés en lien avec le sujet, dont le plus célèbre d'entre eux, avec Leonardo DiCaprio en vedette. Vous l'aurez compris, l'homme au masque de fer devient une star de la littérature et de la filmographie française et internationale. Son aura et son destin si particulier participent à l'élaboration de théories les plus folles, des plus crédibles aux plus incertaines. L'homme qui en parla certainement le mieux est Voltaire, qui, de manière assez maligne, évoque la théorie autour de Fouquet de cette manière. Le masque de fer était un homme qui avait tous les secrets de M. Fouquet. Or, pourquoi des précautions si inouïes pour un confident de M. Fouquet, pour un subalterne ? Alors, d'après vous, l'homme au masque de fer, était-il un serviteur qui en avait trop entendu ? Un frère aîné du roi Louis XIV ? Un noble disgracié ou Nicolas Fouquet ? Dans tous les cas, le mystère reste entier et aujourd'hui, aucune thèse ne semble réellement prendre le dessus et le doute, lui, est toujours permis. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la complicité de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.